vous exprimer, poser des questions sur un sujet qui vous préoccupe ou encore donner votre avis sur une situation inquiétante, je vous donne rendez-vous. Moi, Marie-Chantal Lumba, dans Parole aux auditeurs. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 11h à 12h et mercredi, de 10h à 11h15, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, un rendez-vous quotidien sur Radio Capi.
Je refuse totalement ce qui se
passe. Moi, c'est une combattue au Kassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de Parole aux auditeurs, une émission de Radio Capi qui vous permet de prendre la parole et donner votre point de vue sur les préoccupations quotidiennes et les grands faits marquant l'actualité en RDC. Aujourd'hui, nous parlons environnement. La RDC fait partie des 10 pays au monde les plus riches en eau. Il est même le premier en Afrique qui possède cette eau bleue, comme on l'appelle, avec 35% d'eau douce sur le plan mondial et 90% de la superficie de la RDC sont drainées par les eaux. Une grande richesse, un patrimoine mondial. Question, comment faire pour protéger ces eaux constituées des lacs, fleuves et rivières? Et selon vous, comment les rendre profitables au reste de la planète? Pour en parler, nous avons invité Jean des Dieux Boroto Ruiza. Il est ingénieur civil et spécialiste en gestion des ressources en eau. Ce sujet vous intéresse? Vos avis, propositions et questions sont attendus au cours de cette émission, que vous soyez en RDC ou à travers le monde.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour Monsieur Jean des Dieux Boroto.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en la matière, en ce qui concerne les eaux. Que représentent en termes de potentialité les eaux en RDC?
D'abord, merci pour l'opportunité de m'exprimer à Radio Capi. Eh bien, l'eau pour la RDC semble beaucoup plus appréciée par les autres pays que par les Congolais eux-mêmes, dans la mesure où l'eau, en résumé, est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a pas à manger. Sans eau, il n'y a pas d'énergie. Pour nous-mêmes, l'eau peut être utilisée pour le transport, pour la pêche, pour le tourisme. Donc en fait, l'eau serait vraiment un moteur de développement pour notre pays.
Est-ce que l'eau en RDC représente un enjeu sur le plan mondial?
Bien sûr, un grand enjeu. Un grand enjeu dans la mesure où le bassin du fleuve Congo est le deuxième bassin au monde en termes de ressources en eau en quantité. Et il se fait que, aussi bien au nord qu'au sud de notre pays, nous avons des voisins qui sont en situation de pénurie et qui donc nous regardent, nous prennent pour des inconscients, parce que nous sommes assis sur une mine d'or, de l'or bleu, mais nous n'en avons pas conscience.
Oui, en fait, la plupart des pays qui limitrophent, même, ils connaissent le désert, ainsi de suite, c'est un peu difficile pour eux d'avoir suffisamment d'eau. Ceux qui ne sont pas dans le bassin vraiment du Congo.
Effectivement, et ils ont fait déjà des pas d'ailleurs pour essayer d'apprécier comment accéder à cette ressource en eau. Il y a 5-6 ans, l'ex-président de la Namibie, Sam Nujoma, a demandé à la SADC, donc la communauté des États de l'Afrique australe, dont la RDC fait partie, de mener une étude pour voir comment transporter les eaux des affluents du fleuve Congo, notamment le Kasaï, vers les pays du Sud, c'est-à-dire en passant par la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, jusqu'en Namibie. Et cette étude a été menée par la SADC, et les Congolais ont l'opportunité de faire des commentaires sur cette étude. Au nord, le lac Tchad est en train de s'assécher.
Et les 90% de la superficie.
Effectivement, oui. Et donc, les pays du bassin du lac Tchad, notamment le Tchad, le Nigeria, ils font pression sur la RDC. Ils parlent de solidarité interbassin pour que nous puissions leur donner nos ressources. Mmh. Mais est-ce ça la solution? Nous allons en parler.
Mais on va en parler. Oui, aussi, il y a un phénomène qu'on ne pourrait pas ignorer, le réchauffement climatique. Le lac Tchad, comme vous l'avez dit, a déjà perdu presque 90% de sa superficie, il est en train de s'assécher. Est-ce que les eaux de la RDC connaissent aussi ce phénomène-là?
C'est un phénomène qui est plus grand que la RDC. Ce qui se passe ailleurs a des impacts sur ce qui arrive ici en RDC.
Mm-hmm.
Notre forêt, en fait, on ne saurait pas parler des eaux au Congo sans parler de notre forêt équatoriale, en rapport avec l'environnement et les changements climatiques, parce que notre forêt constitue un grand poumon d'oxygène pour l'humanité tout entière.
Mmh.
Et donc, il est important que nous, Congolais, nous apprécions l'eau à sa juste ressource et que nous puissions nous positionner de façon stratégique pour faire face à des menaces extérieures,
mmh,
dont le changement climatique. Mais il y en a d'autres, dont la croissance démographique, la pollution, ainsi de suite.
Donc, est-ce qu'on le sent déjà? Vous êtes spécialiste, vous connaissez bien les eaux du Congo. Est-ce que déjà on sent que ce réchauffement climatique a vraiment des impacts? Une rivière qui existait avant, qui s'est asséchée, est-ce qu'on le sent?
Bon, les réchauffements climatiques ou les changements climatiques se manifestent sous deux aspects.
Mmh.
Il y a donc en fait des extrêmes,
oui,
en termes d'inondation et en termes de sécheresse.
Mmh.
Le grand problème que nous avons en Afrique et au Congo, c'est le manque de données. Mais même sans ces données,
on peut observer
que de temps à autre, le fleuve Congo, même ici à Kinshasa, connaît des inondations. C'est vrai qu'on n'a pas encore connu des sécheresses très très aiguës ici chez nous. Mais il n'est pas à exclure que dans une des régions du pays, qu'on connaisse des sécheresses qu'on peut attribuer au changement climatique.
Oui, nous allons prendre déjà, il y a une série d'auditeurs qui sont en ligne. Il y a Antoine qui nous appelle de Bounia et Dieudonné de Kananga. Bonjour Antoine.
Bonjour madame, c'est Antoine depuis Aru, ce n'est pas Bounia.
Vous êtes dans la province orientale, merci beaucoup. Antoine, dites-nous un peu, comment faire pour protéger les eaux en RDC? Quelles sont les propositions que vous pouvez faire?
Bon, madame, je pense que la situation de l'eau en RDC, ça c'est déjà un domaine environnemental. Et il fallait savoir que l'environnement, c'est la vie de l'homme, comme l'invité vient de le dire. Mais notre constat, c'est quoi? Les gouvernements congolais accordent seulement de l'importance pour les ressources comme l'or, les diamants, les copasses, le pétrole, etc. Mais on ne veut pas valoriser l'eau. Alors, je pense qu'il fallait prendre des dispositions pour mieux gérer les eaux de la RDC afin que cela soit bénéfique à la population.
Mmh.
Je vous donne par exemple un exemple. À Arou, il a été promis à la population qu'il fallait construire un barrage sur une rivière, sur une site. Mais après, on va encore dire que non, il faut amener les courants de l'Ouganda. Vous voyez que ce qui devrait être bénéfique pour la population, ce qui devrait servir même les pays voisins comme le Soudan, comme l'Ouganda même. Et on a refusé ça, on dit que non, il faut maintenant amener les courants de l'Ouganda. Ça, c'est un exemple. Parce que on constate que même les gouvernants ne veulent pas valoriser ce que nous avons dans notre milieu.
Oui.
Deuxième aspect, par exemple, dans les territoires de Haru, on est en train d'utiliser même l'eau qu'on appelle Rwenzori dans des boîtes à côté, ça vient de l'Ouganda. Alors, vous voyez que, alors que nous avons des capacités des eaux, les gouvernements pourraient même investir pour qu'on puisse aussi vendre de l'eau à l'extérieur. Mais nous sommes en train d'exporter l'eau alors que nous avons même des sources, nous avons des fleuves. Et comme vous venez de le dire, la RDC est vraiment sur le niveau international. C'est déjà un pays qui a une place quant à ce qui concerne l'eau. Vous voyez que c'est déjà un aspect qui montre que nous ne voulons pas valoriser ce que nous avons dans notre pays.
Oui, Antoine, avant que vous puissiez, qu'on puisse se séparer, est-ce que vous avez des propositions assez concrètes?
Oui, ma proposition c'est quoi? Et l'eau, c'est la vie de l'homme, et nous pouvons valoriser nos eaux ici à construire des barrages. Par exemple, on peut construire des barrages là où c'est disponible, on construit et on envoie ça. Même les pays extérieurs peuvent acheter ça. Effectivement, les courants, ça va passer, ça donne des recettes pour la population, même pour notre gouvernement. Mm-hmm. Il ne faut pas seulement investir, juste bénéficier de ce qui est de l'extérieur. Nous devons valoriser ce que nous avons une capacité de faire ça. Ce n'est que la confiance qui manque au gouvernement, même à toute la population.
Merci beaucoup Antoine d'avoir participé à notre émission. Nous avons notre invité qui pourra nous donner plus d'explications pour savoir est-ce qu'un barrage permet de pouvoir protéger l'environnement ou pas. Et encore une fois, merci de nous avoir appelé à partir de Haron. Nous avons Dieudonné qui est en ligne, nous appelle du Kasaï occidental de Kananga. Bonjour Dieudonné. Oui, Dieudonné, on vous écoute.
Ok. Le problème de l'environnement pour notre pays, c'est pas très important. À l'usage des
fonds. Dieudonné, en tout cas, le son n'est pas assez bon, hein. C'est comme si la connexion n'est pas bonne. On va essayer de vous rappeler peut-être plus tard, hein, pour voir s'il y aura une amélioration. Mais il y a aussi Mayobo qui nous appelle de Kikwit au Banjunzu. Mayoko plutôt. Bonjour Mayoko.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi ainsi que tous mes frères de Kikwit. Je les souhaite bonne année à tous.
Non, je réponds à leur place, merci. Pareillement. Mayoko, on vous écoute.
Ok, moi madame, je dirais que ça m'étonne quand on dit que la RDC est première en Afrique, en nous, et dixième au monde. Mais nous ne voyons absolument rien à travers de l'eau.
Donc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que vous voulez peut-être voir?
Bon, madame, vous voyez dans le pays voisin, hein, on exploite leur eau en exploitant du pétrole, par exemple. Mais chez nous, on déclare plusieurs lacs contient de pétrole, mais on n'arrive pas à l'exploiter. Alors, voyez-vous, ça fait du mal.
Mm-hmm. Oui, Mayoko, merci beaucoup. On a compris votre préoccupation. Vous pensez qu'il faudrait exploiter le pétrole qui se trouve dans les eaux. Vous avez donné votre avis par rapport à cette situation. Merci.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Jean des Deux Boroko, vous avez suivi nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous donner votre réaction par rapport à leurs avis?
Bien sûr, merci. J'ai bien écouté les préoccupations d'Antoine Harou, avant la province orientale. J'aimerais d'abord lui dire que le gouvernement congolais est très conscient des enjeux liés aux questions de l'eau dans le pays. Pour son information, au moment où je vous parle, il y a des projets qui sont en cours, peut-être dont les impacts ne sont pas encore visibles. Parce que pour bien gérer les ressources en eau, il faut une base législative, il faut une base en matière de politique et de stratégie de l'eau. Alors, j'aimerais rassurer Antoine que le Congo est en train de développer une politique de l'eau, il est en train de développer une stratégie de l'eau, qu'il est en train d'adopter un nouveau code de l'eau qui va remplacer un code qui date de l'époque coloniale.
Oui, mais est-ce que vous pouvez donner un peu des prémices, un peu une idée de ce que le gouvernement compte faire pour gérer l'eau?
Bien sûr. Comme j'ai dit dans l'introduction, l'eau représente une importance économique capitale. Parlons de l'énergie, parce que Mayoko se plaint que voilà, on n'a pas de barrage, ainsi de suite. Nous avons le barrage d'Inga, qui n'est pas encore exploité à son plein potentiel, qui fonctionne tant bien que mal, malgré les conditions du pays.
Oui.
Eh bien, ce barrage a la capacité ou le potentiel d'alimenter toute l'Afrique. L'eau pour l'énergie, en fait, ou l'énergie elle-même, c'est la clé même du développement, parce qu'elle permet de créer une valeur ajoutée à chaque produit. Quand vous produisez du manioc, il faut un moulin pour le transformer en farine. Quand vous produisez de l'or, il faut de l'énergie pour le traiter et améliorer sa qualité.
Mm-hmm.
Quand vous avez un élevage, vous produisez du lait, il faut de l'énergie pour le conserver. Donc l'eau pour l'énergie est essentielle. Quand vous parlez de l'eau pour les besoins humains, c'est vrai, quand Mayoko a commencé à parler, j'étais effectivement d'accord avec lui. Moi, je viens d'un village à 45 km de Bukavu, à Walungu. J'habitais à peu près 8 km de l'église. Et il y a un dicton, si je peux parler en machi pour les auditeurs.
Vous allez quand même traduire.
Je traduirai, oui. Ababarofi nakanyamuzinda bobacherwa emisa. Ça signifie ceux qui vivent à côté de l'église sont ceux-là qui sont souvent en retard à la messe. Parce qu'ils se disent que voilà, nous sommes là et ils prennent leur temps pour se lever, pour se laver. Mais pendant que nous autres qui venions de très loin, arrivions à temps à la messe de 6 heures du matin. C'est le cas du Congo. C'est inacceptable que à quelques mètres, kilomètres du second fleuve, le plus grand au monde, je veux dire le fleuve Congo, qu'à Kinshasa, il y a des quartiers qui n'ont pas de l'eau.
Oui, même il y a une étude qui prouve qu'il n'y a que 97% de la population en RDC a un accès difficile à l'eau.
Effectivement, c'est, et encore que cet accès doit être qualifié, parce que c'est en termes de quantité de l'eau. Quand vous avez un robinet chez vous, l'eau coule combien d'heures par jour ou par semaine sous votre robinet? Quelle est cette quantité? Quand vous habitez à côté d'une bonne fontaine de la régie des eaux, c'est combien de kilomètres ou de mètres que vous faites pour arriver à la bonne fontaine? Ce sont là des questions qui devraient nous préoccuper.
Mais parlons de la politique en RDC pour protéger l'eau.
Bon, pour protéger...
Qu'est-ce qui est prévu, en fait?
En fait, l'eau, la protection de l'eau, en fait, se base sur la prémisse que l'eau est un bien environnemental. Donc, il faut protéger l'environnement. Les forêts, toutes nos ressources de la flore et de la faune, aussi bien terrestres qu'aquatiques, dépendent de l'eau. Il faut donc assurer qu'il y ait suffisamment d'eau, donc en quantité, et de bonne qualité. C'est ainsi que, dans le code de l'eau, qui est en cours d'élaboration, nous allons prévoir des normes. Par exemple, pour qu'une mine ou une industrie qui rejette les eaux usées dans nos rivières puisse les traiter, afin que, avant qu'elle arrive dans la rivière, elle soit d'une qualité acceptable. Ça, c'est la théorie. La pratique appelle d'autres moyens. L'argent, les moyens de mesure, des personnes qualifiées, ainsi de suite. Mais les petits voyages, mais les grands voyages commencent par un petit pas. Et je pense que la RDC est en train de faire ce petit pas.
Nous allons revenir là-dessus. Nous avons Serge qui nous a appelé de Bounia, Ndé, qui est de Kinshasa. Bonjour Serge.
Oui, bonjour Marie-Chantal.
Oui, Serge, on vous écoute.
Oui, je crois que aujourd'hui, c'est la gestion des ressources, pas au niveau de la piste maritime, mais aussi au niveau forestier, pose un problème. C'est parce que nous retrouvons quand même qu'il n'y a pas une volonté politique qui se fait manifester sur le plan d'organisation, mais aussi au niveau de ces gestionnaires. Cela, je l'explique à deux grandes dimensions.
Oui.
Oui, la première dimension, je le situe lors de l'endogène lointaine, dans la mesure où il faudrait que ces gestionnaires parviennent au moins à élaborer certains projets d'ordre d'intérêt, disons locaux, voire même nationaux, en vue de leur visibilité ou aussi de leur durabilité. Cependant, nous ne voyons pas grand-chose que ces gestionnaires, ou au moins ceux-là qui se retrouvent au niveau de cette gestion, ou au moins dans les chefs de ceux-là qui gèrent ces ressources, ne font pas chose.
Oui, et quelles propositions vous faites, Serge?
Oui, j'en arrive, madame.
Parce que nous avons beaucoup d'autres auditeurs qui sont en ligne. Est-ce que vous ne pouvez pas être assez bref?
Ok, merci. Donc, pour être un peu beaucoup plus concis, je me résume en disant ceci. Donc, l'autre cause que je l'ai dit, c'est dans l'ordre endogène externe, c'est qu'il faudrait que ceux-là qui sont aussi dans la zone noire parviennent au moins à contribuer aussi à cette gestion pour aider à ce que ces gestionnaires-là puissent aussi bien gérer ces ressources tant au niveau maritime que aussi fluvial.
Mm-hmm.
Comme proposition, je pense qu'il faudrait des mesures sécuritaires mais aussi dissuasives pour aider à ce que cette gestion soit efficace mais aussi efficiente.
Merci beaucoup Serge d'avoir participé à l'émission. Vous pensez qu'il faudrait des contraintes, hein, qu'on puisse arriver à contraindre les gens, qu'il y ait des mesures dissuasives pour pouvoir protéger et aussi gérer les eaux. Bonjour Ndeke, il nous appelle à partir de Kinshasa, d'ici Kinshasa. Ndeke ?
Oui.
Oui, on vous écoute.
Bon, je vous remercie pour cette question. Je voulais dire que l'eau, c'est une denrée très indispensable pour la vie de l'homme. C'est comme ça qu'on dit, avoir l'eau, c'est avoir la vie. Et cette eau que nous avons dans notre pays, vous devez reconnaître que nous avons un réseau hydrographique très important en Afrique.
Mm-hmm.
Et c'est de ce réseau hydrographique que dépend beaucoup d'autres bienfaits que nous pouvons avoir dans notre pays. Mais malheureusement, ce réseau hydrographique n'est pas géré rationnellement. Et nous considérons comme étant que cette eau-là est intarissable et que même si nous ne gérons pas ça d'une manière rationnelle, ça ne va pas poser un problème. Mais je vous dis, et je vous préviens que si nous continuons à réfléchir dans ce sens-là, on risque d'être surpris parce que vous devez savoir que
oui,
les déserts du Sahara au nord de l'Afrique est en train de progresser vers le sud. Le désert de Kalahari au sud de l'Afrique est en train de progresser vers le nord. Donc ce qui fait qu'il y aura une pression démographique telle que les populations qui vivent de l'agriculture, les populations qui vivent de l'élevage, auront tendance à émigrer vers les différents points d'eau qui se trouvent en Afrique centrale.
Mmh.
Et ces différents points d'eau se trouvent en RDC.
Oui.
Et si aujourd'hui, nous ne prenons pas de précautions pour que nous puissions signer des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays, de manière à ce que nous puissions les servir en eau, de manière à ce que nous ne puissions pas être obligés de se déplacer vers notre pays, et on va assister à une pression démographique qui fera que nos frontières ne pourront même pas être en mesure de freiner ces individus. Prenons le cas des peuples qui sont venus du Soudan, qu'on a appelé ici des Mbororo.
Mm-hmm.
C'est à cause du fait qu'ils étaient à la recherche de points d'eau, ils ont traversé nos frontières, et vous connaissez toutes les difficultés que nos populations de la province orientale ont eues. Moi-même, j'avais eu à mener des enquêtes quand, en 85, ils avaient traversé la partie de la province de l'Équateur. En 85, ils étaient venus parce qu'ils avaient également ces différents points d'eau qu'ils pouvaient en République démocratique du Congo. Donc,
oui,
il est urgent pour nous aujourd'hui d'avoir une politique anticipative de manière à ce que nous puissions voir comment nous pouvons signer des accords avec ces pays pour voir leur pays en eau parce que nous les avons suffisamment dans notre pays. Mais en prenant également la précaution qu'en donnant l'eau aux autres, que la population ne puisse pas être privée de l'eau comme c'est le cas aujourd'hui.
Merci beaucoup, Ndeke. Vous préconisez en fait qu'on puisse, qu'il y ait des accords bilatéraux avec les pays limitrophes et d'autres pays aussi voisins, mais aussi une prise de conscience du Congolais, de la richesse qu'il a, hein, et qu'il puisse aussi arriver à gérer convenablement l'eau.
C'est ça.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Vous voulez vous exprimer, poser des questions sur un sujet qui vous préoccupe ou encore donner votre avis sur une situation inquiétante? Je vous donne rendez-vous, moi, Titine Poutou, dans Parole aux auditeurs, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 11h à 12h et le mercredi, de 10h à 11h15, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, un rendez-vous quotidien sur Radio Kinshasa.
Vous êtes branché sur Radio Capi, c'est l'émission Parole aux auditeurs. Ce mercredi, votre émission est axée sur l'environnement. La RDC fait partie des 10 pays au monde les plus riches en eau. Il est même le premier en Afrique qui possède assez d'or bleu, comme on l'appelle, avec 35% d'eau douce sur le plan mondial et 90% de la superficie de la RDC sont drainées par les eaux. Les questions pour participer, pour en parler dans cette émission, comment faire pour protéger ces eaux constituées de lacs, fleuves et rivières, et selon vous, comment les rendre profitables au reste de la planète, vous voulez participer, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous appeler au 081-99-77-800, je répète, le 081-99-77-800, ou vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Radio Capi s'écrit en un mot avec deux lettres O. Et pour en parler, nous avons invité Monsieur Dieudonné, plutôt Jean des Dieux Boroto. Il est spécialiste en matière d'eau et il est aussi ingénieur civil. Monsieur Dieudonné, vous avez suivi nos auditeurs, hein, ils ont donné certaines propositions. Est-ce que vous pensez que l'eau peut devenir un conflit ici en RDC, comme c'est le cas qu'on vit ces derniers temps au Proche-Orient?
Bien sûr, et c'est déjà une source de conflit. J'étais à Bukavu au mois de juillet 2009. Je me suis retrouvé à Fumu, à côté de l'ex-Elo Kadutu, un terrain de foot. Et là, il y avait toute une population avec des bidons jaunes faisant la queue pour avoir accès à l'eau. Et qui était là pour ordonner, organiser les choses, c'était la police en uniforme. C'est dire que si la police n'était pas là, en fait, les gens allaient se bagarrer pour avoir accès à cette eau-là.
Et sur le plan international,
ça, c'est à petite échelle. Mm-hmm. Sur le plan international, bien sûr, c'est très, très possible. Parce que quand un pays comme le Tchad est en train de souffrir et que le Congo n'a pas l'air d'être conscient du rôle qu'il est appelé à jouer, eh bien, le Tchad et tous les pays du bassin du lac Tchad ont le droit de développer des stratégies pour justement accéder à notre eau. Mm-hmm. Et là, je rejoins Mbeke, qui est ici à Kinshasa, dans ce qu'il a dit, qu'il faut que nous soyons proactifs. Proactifs dans l'anticipation des besoins des autres pays. Il est vrai que déjà le Congo est signataire du protocole de la SADC, des eaux partagées. Même s'il n'en est pas signataire, au moins le protocole l'engage parce qu'il a été ratifié par deux tiers des pays de la SADC. Mm-hmm. Le Congo a fait partie du processus qui a mené à l'élaboration et l'adoption de la politique et de la stratégie de l'eau de la SADC. Le Congo a fait partie du processus qui a amené à l'élaboration du projet de la stratégie de l'eau des États de l'Afrique centrale. Mais en ce qui nous concerne en tant que Congolais, il y a plus qu'on doit faire. Je vais même aller plus loin pour rejoindre Ndeke dans son propos. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que nous devons donner notre eau au Tchad? Pourquoi est-ce que nous devons donner notre eau au Botswana? Cette eau, quand elle va se retrouver au Tchad, au Botswana, elle va s'évaporer. Et elle va coûter trop cher pour être transportée. Elle va perturber l'environnement. Nous savons que les eaux, en fait, sont utilisées à 60% pour l'agriculture. Nous savons par ailleurs que le Congo n'a même pas encore développé même le 5% de son potentiel agricole. Ça signifie qu'il nous appartient de devenir le panier agricole de l'Afrique, de produire à manger avec notre eau et au lieu d'exporter l'eau, de nourrir tous ces pays.
Mais s'il y avait une possibilité d'exportation de l'eau, est-ce qu'il n'y aurait pas des conséquences sur les populations?
Bien sûr. Parlons du cas du fleuve Congo, parce qu'on parle souvent de ces ressources abondantes. Eh bien, il faut comparer les ressources en eau à une chaîne. Une chaîne, le point le plus fort de la chaîne, en fait, c'est son point le plus faible. Parce que même si la chaîne est très forte dans tous les autres points, mais si un maillot qui est faible, c'est celui qui détermine la force de cette chaîne. Mm-hmm. En ce qui concerne l'eau, c'est en fait la période de sécheresse qui détermine votre vulnérabilité. Même si on connaît des périodes d'abondance d'inuit, quand on fait face à des sécheresses, surtout dans la perspective des changements climatiques, alors il faut être prudent, il faut réfléchir deux fois avant de proclamer que nous pouvons donner nos eaux au Tchad ou à Namibie.
Nous avons Steve qui est en ligne. Bonjour Steve.
Ah, bonjour, c'est Sylvain.
C'est Sylvain, vous appelez de Mbandaka?
Oui, c'est Steve de Mbandaka.
Steve, est-ce que vous pouvez nous... oui, c'est Steve ou Sylvain, parce qu'on veut avoir la précision quand même.
Steve.
Oui, Steve, on vous écoute.
Ok, merci. La première des choses, est, je vais un peu faire savoir peut-être à celui qui est là.
Notre invité.
Et d'abord, dans son article 079, n'est-ce pas, je crois, du code foncier, on dit l'eau, le sol ou le sous-sol, je ne sais pas si j'oublie, appartient à l'État. C'est l'État congolais qui est le responsable de tout ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, pour participer sur le plan économique, vous serez d'accord avec moi que la République démocratique du Congo perd beaucoup d'argent sur l'importation seulement de l'eau, soi-disant de l'eau pire, mais on perd des devises pour peut-être amener cette eau à l'étranger. C'est ce qui est très dangereux.
Et qu'est-ce qu'on va proposer? Est-ce que vous pouvez d'abord de vous éloigner, hein, parce qu'il y a un peu de bruit de fond et ça n'améliore pas la qualité du son. Est-ce que vous nous éloignez, être un endroit où c'est assez calme, comme ça on vous écoute?
Je me suis déplacé.
Oui. Vous disiez...
Jusqu'à la preuve du contraire, on n'arrive pas à savoir la politique par laquelle mon leader, et je vois ici ce qui s'est tenu, nos officiels, font. Est-ce qu'ils prennent vraiment en compte ce que nous avons comme richesse? Je vais me rappeler à notre invité. Il a même parlé sur, n'est-ce pas, les fonctions de l'eau. Mais je lui dirais que l'eau, pour nous qui apprenons le sens, l'eau remplit trop certaines fonctions spécifiques dans l'organisme humain. Et l'eau est plus importante même que l'or.
Oui, c'est vrai que
au contraire, cette politique, c'est la gestion hydrique.
Si vous voulez,
Congo, c'est utopique.
Est-ce que vous pouvez faire des propositions?
Les propositions, celles-ci. D'abord, le gouvernement de la République du Congo doit se reconsidérer. La politique de l'œil externe, la politique de voir que c'est maintenant, c'est l'extérieur qui fait mieux, doit être banni. C'est une mauvaise politique. Donc, le gouvernement de la République doit revoir ses richesses et les donner une certaine performance. L'eau, très importante.
Merci beaucoup Steve, pour vous il faudrait une nouvelle prise de conscience, hein. Vous êtes allé dans le même sens que des auditeurs qui vous ont précédé, qu'il faudrait une prise de conscience et pouvoir revoir sa politique dans la gestion et la protection des eaux. Salé se trouve à Kalemi, bonjour Salé.
Bonjour.
On vous écoute.
Et moi, je dirais, je pars dans la même logique que mes prédécesseurs.
Mm-hmm.
C'est tout à fait paradoxal de constater, ici, par exemple, l'Académie, nous avons le lac Tanganyika. C'est le lac le plus poissonné, c'est parmi les lacs le plus poissonné du monde. Mais malheureusement, le gouvernement congolais ne met pas en valeur, ne profite pas les ressources qui se trouvent dans ce lac. Vous avez parlé de la protection des eaux, mais au Congo, le danger est minime pour polluer d'abord de l'eau. Nous n'avons pas d'industrie forte de transformation ou qui peuvent polluer de l'eau. Mais à moi, il y en a. Mais nous pouvons prévenir dans ces cas-là. Mais nous devons, nos gouverneurs doivent chercher à mettre en valeur les eaux qui se trouvent dans notre pays. À Calémie, nous importons de l'eau qui se trouve en Tanzanie. De l'eau qui soi-disant pure. Mais ce sont des valeurs qui ne sont des devises qu'on est en train de perdre. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour essayer d'arrêter ces genres de choses? C'est tout ça. Nous avons de l'eau académie, nous avons le lac Tanganyika qui est ici. Mais ce qui est drôle, la population congolaise, la population calémiarde manque même de l'eau, madame. La majorité de la population des calémies, je dirais même 10%, c'est ceux qui ont accès à l'eau. Et les autres, il faut de l'implication des organismes internationaux, des organismes internationaux pour arriver à faire des trafics de l'eau, de prendre de l'eau à la régie des eaux et aller le vendre à la cité. Et c'est un peu bizarre.
Oui,
le gouvernement.
Oui, Sylvain, on vous a écouté, hein, on a compris votre préoccupation. C'est plutôt salé, hein, on a compris votre préoccupation. Vous appelez de Saint-Rémy, au bord du lac Tanganyika. Nous avons notre expert qui est en studio. Il pourra nous donner beaucoup d'éclaircissements par rapport même à votre préoccupation. Nous prenons aussi Sylvain qui nous appelle de Bounia. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour madame. Merci pour m'avoir accordé l'occasion une fois de plus pour exprimer sur la radio.
Oui, on vous écoute.
Je salue rapidement les auditeurs et auditrices de la radio Capi. Je suis vu Sylvie intervenir avant moi. Je me dis qu'ils ont raison de dire en fait qu'il faut définir un cadre politique, un cadre juridique adéquat pour la gestion de l'eau et des ressources naturelles au Congo. Mais cependant, il faut noter une chose. Je pense que le temps n'est pas venu, nous devons jeter toutes les responsabilités sur nos autorités. La question, c'est la confiance en la gestion de la chose que nous avons. Les déchets ménagers que nous déversons dans les eaux, est-ce que ce sont les autorités qui le font? Je pense que ça, c'est une affaire de la population. Votre invité venait de le dire. Je suis d'accord avec lui, que s'il s'agit de différents accords sur la gestion de l'eau au Congo, avec les autres pays, et des accords qui peuvent aller à ce qu'on puisse exporter nos eaux, ça, c'est d'accord. Il faudrait que peut-être les autorités puissent y réfléchir, en fait, que les intérêts de la population congolaise se retrouvent. Madame, moi, je vais vous parler du cas de la cité de Bounia. À Bounia, je vais parler rapidement des sujets du chef de la cité de Bounia, M. Kamarech, puisque, en fait, quand on peut déverser les déchets dans les eaux, je pense que ça, c'est une responsabilité des usagers même de cette eau, qui est la population. Donc, j'appelle comme proposition, madame, puisque il n'y a pas assez de temps pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent intervenir. Oui. La population, effectivement, la chute de bouillon, puisse prendre des précautions et avoir même des places où ils peuvent gérer leurs déchets. Puisque moi, je vous dis que la première chose, c'est d'abord les déchets que nous déversons dans les eaux. Et en même temps, il y a un usage irrationnel de cette eau-là. Mmh. Alors, par rapport à des contrats, par rapport à l'eau, je pense que le gouvernement congolais a ratifié, comme venait de le dire votre invité, différents accords. Cependant, ce sont des accords à revisiter, comme on les a toujours respectés, puisque le Congo, à lui seul, ne sait même pas gérer la potentialité de l'eau qu'il a. Et je me dis qu'il faut maintenant que ceux qui ont ces accords-là puissent aussi nous aider à faire de nous donner des ressources suffisantes pour peut-être traiter les eaux que nous avons. Puisque il y a d'autres pays en Afrique, quand vous allez parler l'Ouganda, vous allez le Rwanda, qui sont des pays qui sont très pauvres, mais qui ont accès à des eaux potables. Pendant que nous qui avons accès d'eau, nous consommons des eaux bizarres. La régie des eaux, elle est différente. Il faut nous encore une chance. Et des personnels qui sont capables à traiter de l'eau. Voilà un peu ma contribution par rapport à ce sujet.
Merci beaucoup, Sylvain. Vous pensez qu'il faudrait une politique de gestion des déchets, pouvoir protéger notre eau, et vous pensez que les responsabilités sont partagées, la population aussi a une part dans la protection des eaux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous avons l'honorable Moussendou Flore, il est sénateur, mais aussi il est président de la commission environnement, la commission environnement, ressources naturelles et tourisme au Sénat. Bonjour, honorable.
Bonjour.
Oui, honorable, s'il vous plaît, pouvez-vous vous éloigner de votre poste récepteur, ce qui permettra d'améliorer la qualité du son et éviter le retour que nous suivons. Merci beaucoup. Honorable, vous avez même commencé à initier un avant-projet de loi concernant la gestion des eaux.
Oui.
Et par rapport à cela, et toutes les préoccupations des auditeurs, est-ce que ça pourra apporter quelque chose dans la protection de l'eau, des eaux en RDC?
Madame, je me sens vraiment fort aise de suivre vos différents intervenants. Et ma joie, c'est de se rendre compte que les différents experts, la population congolaise est bien consciente de notre potentiel en eau. Et d'une part, elle souhaite que le gouvernement puisse élaborer une politique claire de gestion de cette ressource, mais d'autre part, elle est aussi consciente des difficultés qui peuvent découler de ce potentiel. Donc je commence par la gestion elle-même, c'est vrai. Au niveau du gouvernement, il y a un projet de code sur l'eau, mais je sais aussi qu'au niveau du Sénat, il y a une proposition de loi sur l'eau. Donc on verra comment harmoniser les deux. La problématique réelle est que nous devons mettre une politique claire de gestion des ressources hydriques naturelles, d'une part, et d'autre part, il y a la gestion de l'eau commerciale. Eh bien, celle-là relève déjà des dispositions constitutionnelles qui prévoient que la production de l'eau ainsi que sa distribution sont de la compétence provinciale, donc c'est une compétence totalement décentralisée. Mmh. Donc, certains auditeurs ont soulevé le fait de la distribution commerciale, c'est vrai. Il nous faudrait tirer les discussions constitutionnelles et essayer de mettre en place des mécanismes incitatifs pour que la commercialisation, après production évidemment d'une eau de qualité, soit mise en place. Mmh. D'autre part, la gestion de la ressource eau naturelle est un réel problème. Il nous faudrait que dans notre nouvelle politique, les différents bassins internes du pays soient gérés par des comités clairement déterminés. Et ça, c'est une discussion que nous sommes en train de mettre à la loi, de sorte à ce que ce potentiel puisse bénéficier à la population. Et c'est de là que nous tombons sur la problématique que certains intervenants ont soulevée, la problématique des relations internationales en matière de l'eau. Est-ce que nous devons donner de l'eau aux autres pays qui en ont besoin? On a soulevé le dossier du lac Tchad, qui est un dossier très complexe. C'est vrai, il faudrait, il y a une sorte de solidarité qui est nécessaire au niveau planétaire pour ce qui est des ressources comme la ressource eau. Mais évidemment, cette ressource eau doit profiter avant tout à la population congolaise. Donc, des études assez approfondies sont nécessaires pour voir quelles sont les conditions pour pouvoir alimenter les pays qui en ont besoin. Et le cas du lac Tchad, je me souviens bien qu'il y a la possibilité de prendre de l'eau vraiment en amont du fleuve. Donc, on pensait même prendre dans l'embouchure, ou plutôt dans l'affluent de l'Ubangi. Mais certaines études militent dans le sens d'aller plutôt à l'embouchure donc, du fleuve Congo, donc vers l'océan, de sorte à maintenir le niveau de navigabilité sur tout le fleuve et à garantir que le fleuve dessert les différentes contrées qui dépendent de lui du point de vue économique. Donc là, c'est vrai, il y a le problème de l'humanité qui est un problème réel, mais il y a l'étude de faisabilité préalable qui est nécessaire pour que le pays ne puisse pas souffrir de cette cession de ressources hydriques vers des pays autres. Est-ce que, il y a une question qui m'a vraiment plu, je crois que c'était un intervenant qui de Bounia qui a demandé si ça pouvait créer des conflits internationaux. Mais c'est vrai, si un jour tous les pays du Nord qui ont besoin de l'eau du bassin du Congo se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avoir accès, c'est une ressource capitale, vous comprenez bien, pour leur survie, ils seront capables d'aller de prendre des solutions beaucoup plus extrêmes que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous devons être très prudents, et comme l'a dit un autre intervenant, nous devons anticiper la gestion des ressources hydriques de notre pays. Voilà peut-être un peu en grande ligne la réaction que je peux avoir sur les
différents... On vous garde en ligne, hein, parce que quand même, vous êtes parlementaire, c'est vous qui légiférez, est-ce qu'on aura besoin de ces lois tout de suite, ou est-ce que c'est traité? On vous garde d'abord en ligne, le temps que l'invité puisse aussi donner ses avis par rapport aux auditeurs qui viennent d'intervenir.
Mm-hmm. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord remercier l'honorable Moussen Duflore, parce qu'il a abordé différents points très pertinents. Je ne vais pas revenir sur tous, mais je vais mettre en évidence l'un d'eux, c'est la décentralisation de l'utilisation de l'eau qui, selon la Constitution, revient aux provinces. En fait, pour mieux gérer l'eau, selon les principes internationaux modernes, les principes de gestion intégrée des ressources en eau, il faut une décentralisation aussi bien au niveau de la ressource en eau, telle que l'honorable l'a encore mentionné, au niveau des bassins, des sous-bassins versants. Certains pays vont même jusqu'à un troisième degré. Mais il faut aussi que l'utilisation reviennent au niveau de gouvernance le plus bas. Dans les chefs de quartier, dans les territoires. Ainsi donc, quelqu'un qui se retrouverait à Bounia, ou à Fizi, ou à Kalemie, doit pouvoir aller parler à son chef de territoire. Le chef de territoire doit être suffisamment outillé, équipé, avoir un ingénieur territorial, qui va faire la planification au niveau du territoire, bien sûr en tenant compte des contraintes et des enjeux provinciaux, pour servir les besoins de sa population locale. Mmh. La Constitution le prévoit et cela arrivera. Mmh. Je vais revenir à l'intervention de Serge Abouya, qui a parlé des mesures dissuasives. Elle a lié à l'intervention de Sylvain, qui se trouve aussi à Bounia, qui a parlé des responsabilités personnelles, individuelles. En fait, l'eau est un bien commun, et chaque fois que chacun boit de l'eau, qu'elle soit importée de l'Ouganda, qu'elle soit tirée d'un robinet de la régie des eaux, il doit se rendre compte qu'il y a tout un processus qui a mené à ce qu'il ait une eau de bonne qualité. Il y a un processus technique, un processus qui coûte de l'argent, un processus qui coûte à l'environnement et qui doit donc adopter un comportement responsable. Ainsi donc, c'est vrai qu'il faut des mesures dissuasives, ça c'est le rôle de l'État qui va mettre qui va prendre un cadre donc des régulations, mais il faut aussi qu'en bas, chacun, là où il se trouve, individu, famille, localité, collectivité, territoire, province, prennent des mesures responsables pour que nous puissions tous contribuer à une gestion efficace de ces biens communs.
Parole aux auditeurs.
Nous avons gardé l'honorable Moussen Flor, qui est président de la commission de l'environnement, ressources naturelles et tourisme au Sénat. Il va rester en ligne. Mais nous avons aussi deux autres auditeurs, le professeur Bagoula, il nous appelle à partir d'ici de Kinshasa, aussi docteur Richard. Nous commençons par le professeur Bagoula. Bonjour.
Bonjour, madame.
Professeur, on vous écoute.
Je vous remercie de cette occasion de participer à votre émission, qui est d'un intérêt réellement géostratégique. Merci aussi à l'ingénieur Boroto d'avoir consacré son temps à cette question. Je voudrais d'ailleurs tout de suite aller au but et le féliciter parce qu'il vient de citer ce qu'il appelle les mots-clés. On peut parler de décentralisation, si on ne parle pas de ressources humaines pouvant appliquer la politique de décentralisation, elle ne réussira jamais. Et il vient de parler de l'ingénieur territorial. Il vient de parler de processus techniques. Il vient de parler de processus environnementaux. C'est là, en fait, la clé. La clé de voûte d'une maîtrise des questions de l'eau. Et en ce sens-là, je voudrais simplement, et très rapidement, rappeler que nous devons d'abord prendre conscience du déficit des ressources humaines dans les questions de maîtrise de l'eau, quel que soit le domaine d'application, quel que soit donc dans le cadre de la GIR, pour la production et la fourniture, la distribution d'eau potable, que ce soit au côté agronome pour les questions d'irrigation, pour quitter l'agriculture pluviale et passer à une culture intensive, indépendante des saisons. Que ce soit bien entendu pour la question de navigation, je suis devant une carte de notre pays qui nous montre qu'aucun autre pays du continent n'a une étendue, une longueur de réseau qui est rapprochant de 10 km comme nous. Les questions de pêche. Je crois que tout cadre de ce pays doit avoir honte de ce qui vient de se passer à l'Équateur. Comment personne n'a prévu un conflit qui a conduit à plus de 100 morts dans cette question de pêche? Nous manquons à ce point-là de perspective. La question d'hydroélectricité, enfin, pour terminer. Nous savons très bien que nous avons à Inga le potentiel le plus élevé du monde. Tous les autres ont déjà mis en œuvre leurs capacités sur ces questions-là. C'est les Trois Gorges en Chine, c'est Itaipu au Brésil, c'est la Baie James au Canada. Et nous, notre capacité, rien qu'à Inga, qui est la plus élevée, concentrée au monde, elle est à peine maîtrisée à l'ordre de 1%, 2%, sans oublier que tout le pays, la capacité, le potentiel de tout le pays est égal à tous les 2,12. Alors, sur la question des ressources humaines, dans la même ambiance, à la même date, je rappelle qu'à la faculté polytechnique, on forme, en principe, certains des spécialistes de ces questions. On est en panne, on est quasi à l'arrêt
il n'y a aucune mesure
fondamentale
qui a été prise.
Professeur,
c'est ce que la population doit comprendre.
S'il vous plaît, professeur Bagoula, on a compris, hein, vous avez dit que vraiment, il nous manque de l'expertise, il faudrait renforcer nos capacités, prévoir tout ce qui est possible pour pouvoir gérer ces autres. Merci beaucoup, professeur, d'avoir participé à cette émission. Nous avons le docteur Richard qui est en ligne. Bonjour, docteur.
Bonjour, madame. Bonjour aussi à votre invité, à tous les auditeurs.
Oui, quelles sont les propositions que vous faites, docteur?
Oui, avant de proposer, je rends d'abord hommage pour des raisons d'histoire au feu maréchal Mobutu Sese Seko pour ses actions pour, en faveur de l'environnement et pour son discours courageux à l'ONU en 74.
Mm-hmm.
Ça, c'est pour dire à votre invité qu'il n'y a pas seulement le président de Namibie qui a pensé à la richesse de l'eau et de la forêt du Congo, mais il y avait aussi le feu maréchal Mobutu Sese Seko. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, je pose la question, qu'a-t-on fait de l'héritage de Mobutu, par exemple, sur la forêt qu'il avait créée en face du palais du peuple? Qu'est-ce qu'on a fait du site touristique du Mont Ganyama avant de commencer à cogiter, à parler? Et puis, troisièmement, est-ce qu'on peut parler de l'eau sans parler de l'arbre? Alors, pour citer, je dis ceci, à tous les niveaux, il faut qu'on enseigne l'eau. On n'enseigne pas l'eau dans les familles, dans les quartiers, etc. Il faut un institut national de l'eau et de l'arbre pour mettre sur pied des modules de formation adaptés même aux illettrés. L'eau n'est pas enseignée au Congo, on ne connaît pas l'eau.
Oui.
On consomme l'eau, on salit l'eau. Regardez seulement le long du quartier Mososola, le long de la rivière Kalamu. Les tuyauteries des toilettes se déversent dans la rivière Kalamu.
Mmh.
Est-ce qu'on connaît l'eau? Est-ce que le bourgmestre de cette commune a connu l'eau? Protéger l'eau et l'environnement.
Oui, docteur Richard, merci beaucoup d'avoir participé. D'ailleurs, on l'a même perdu en ligne, docteur Richard. Nous avons encore l'honorable Moussendou qui était resté en ligne. Honorable, vous avez suivi certaines préoccupations, vous êtes député. Est-ce que vous pensez que c'est une priorité d'avoir une loi qui permettra la gestion de l'eau?
Merci madame, affirmatif, et je dois dire merci à tous les intervenants qui ont été très pertinents. La première des choses, c'est vrai, je voudrais consolider le fait que la gestion de l'eau doit être totalement décentralisée. Évidemment, comme je l'ai dit, la Constitution a prévu la différence de compétences entre le gouvernement central et la province, mais la loi, elle, va consolider la décentralisation jusqu'à l'entité la plus petite possible, donc pour qu'il y ait une gestion de proximité. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà prévu dans la loi qui est en traitement. Mais la deuxième des choses, les ressources humaines, et c'est vrai, comme pour la forêt, il faut avouer que nous avons eu notre code forestier il y a quelques années, et d'ailleurs les mesures d'accompagnement ne sont pas encore sorties, mais déjà dès maintenant nous sentons le besoin de réadapter ce code forestier à la réalité du terrain. Et ce n'est qu'à partir du moment où nous aurons pris conscience du besoin de gestion de cette ressource qui est l'eau, pour le cas que nous discutons, ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons pouvoir pousser pour que les ressources financières soient disponibles pour former l'homme nécessaire à cette gestion. Donc, je suis d'accord avec la préoccupation que votre intervenant a soulevée de l'homme qui ne serait peut-être pas encore disponible aujourd'hui, mais nous avons besoin de mettre suffisamment de ressources financières pour ce faire. Quant à la protection de l'eau, et je pense que ça c'est un point capital, comme vous le savez, l'Assemblée nationale, je crois, vient de voter la loi cadre sur la protection de l'environnement. En fait, cette loi cadre donne le frame, donc les lignes maîtresses, donc l'orientation de base sur la protection de l'environnement dans notre pays.
Mm-hmm.
Et c'est de cette loi cadre que vont découler les différentes lois spécifiques pour protéger des ressources assez particulières.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable.
De l'eau, donc ça découlera de cette loi cadre.
Oui, merci beaucoup, honorable, d'avoir participé à notre émission. Nous sommes un peu pressés par le temps parce que nous n'avons pas assez de minutes pour pouvoir, parce que c'est un sujet assez large. Merci beaucoup, honorable, de nous avoir accordé de votre temps. Monsieur Jean des Deux Boroto, vous avez suivi nos auditeurs, hein, mais aussi c'est assez pertinent, hein, toutes les questions qui ont été posées.
Effectivement, oui. Et je crois que nous tendons vers la fin. Il y a beaucoup de choses dont on aurait voulu parler, mais qu'on n'a pas pu évoquer ou aborder. La question de l'éducation est primordiale. Elle a été évoquée par le professeur
Babou. Vous organisez quand même des séminaires dans ce sens?
Bien sûr. Je suis ici à Kinshasa, en fait, en train d'assurer une formation dans un domaine spécifique. Mais il y a un volet de renforcement des capacités qui est prévu dans la nouvelle politique de l'eau pour le Congo. Il y a les aspects de l'assainissement qu'on n'a pas touché et qui sont critiques parce qu'ils portent sur la pollution. Il porte aussi sur la dignité même humaine. Kinshasa est une poubelle, je m'excuse de le dire. Kinshasa, en fait, attend une explosion, pour peu qu'il y ait une inondation qui va toucher toutes nos fosses septiques qui ne respectent plus aucune norme. Mm-hmm. Il y a les eaux souterraines dont on n'a pas parlé. Mm-hmm. Tout Kinshasa, en fait, qui n'a pas qu'y faire, qui est malheureusement pollué. Les questions de décentralisation sont liées aux questions d'urbanisation. Parce que, qu'on se le dise, aucune ville africaine ne peut répondre aux besoins en eau potable de ses populations, surtout dans les milieux périurbains, à cause de l'exode rural massif qui, au Congo, a été exacerbé par la guerre. On n'a pas parlé des infrastructures, les grands ouvrages qu'il nous faut, on en a moins besoin parce que la pluie est constante ici. Les petites infrastructures, on n'a pas parlé des besoins d'opération de maintenance de ces infrastructures, et enfin, on n'a pas parlé de financement.
Donc, tout ça, vous avez organisé même un séminaire dans...
Effectivement, j'invite tous les Quinois à venir m'écouter le samedi à 15h au centre CEPAS au collège Boboto, où nous allons aborder ces questions encore en long et en large.
Bon, une dernière question, nous sommes presque à la fin, mais est-ce que si on devait rentabiliser l'eau du Congo, ça peut coûter combien? La RDC peut gagner combien?
Je ne saurais pas avancer un chiffre, mais l'eau est vraiment, à part l'or et toutes les autres ressources naturelles, l'eau, on peut dire que c'est une ressource renouvelable dont nous pouvons tirer profit indéfiniment pour les générations présentes et les générations futures.
Allô? Allô? Allô?
Nous disons merci à Jean Dédieu Boroto, il est professeur, il est plutôt spécialiste en gestion des ressources en eau, et nous remercions aussi tous les auditeurs qui ont participé activement à cette émission. Demain, nous avons un autre rendez-vous avec Parole aux auditeurs. Nous parlerons santé, quel est l'état de lieu des infrastructures sanitaires dans vos milieux, quelles propositions faites-vous? Vous pouvez réagir dès à présent. Je dis aussi merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission.